verdir son portefeuille. Voilà, c'est des mots que les investisseurs entendent hein, depuis plusieurs années, mais on ne sait pas forcément ce que ça signifie. Et puis surtout, on se demande parfois si c'est pas des mots, des termes un petit peu galvaudés, si derrière tout cela, il n'y aurait pas un soupçon de greenwashing, cet argument marketing qu'utilisent les banques ou les entreprises pour verdir leur image. Et aujourd'hui, avec vous, Pascal, on va essayer de répondre notamment à cette question. Comment éviter le greenwashing dans les placements financiers? Est-ce que vous êtes prête?
Mais oui, avec plaisir.
Ben écoutez, c'est parti. On va d'abord répondre à une première question. Et c'est une question que nous a adressée il y a quelques jours Colin. Alors Colin, il entend beaucoup parler de placement durable, de placement responsable. Hein. Il aimerait bien investir. Sauf que, bah, comme beaucoup de personnes, il a lu dans les médias, il y avait une petite enquête du Monde, il n'y a pas si longtemps que cela, qu'il y a de nombreux leurres dans ce domaine. Et il voudrait déjà comprendre ce qu'on entend précisément par greenwashing. Pascal, quand on parle de greenwashing, on parle de quoi concrètement?
Alors, en fait, on peut se référer à la définition de Novetti qui nous dit que le greenwashing, autrement dit l'éco-blanchiment, est une méthode marketing qui consiste à communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique. Le but du greenwashing, c'est de se donner une image éco-responsable et finalement, malheureusement, assez éloignée de la réalité. La pratique du greenwashing, elle est trompeuse et on peut même dire que c'est de la publicité mensongère. Alors, c'est vrai que c'est parfois très difficile de détecter le greenwashing, qui est souvent très bien fait, d'où l'importance eh bien, de bien se renseigner avant d'investir dans des placements dits verts.
Et alors, pourquoi là aujourd'hui les banques, les entreprises, elles ont ce besoin de verdir leur image? Pourquoi? Ça répond à une demande? Ça fait bien? C'est quoi?
Oui, il y a une pression de la part des parties prenantes, c'est-à-dire des clients en particulier, ou même des actionnaires, qui attendent eh bien, plus d'engagement de la part d'un certain nombre d'entreprises. Donc oui, il y a une pression qui monte. Et de fait, eh bien, la communication est un élément important. Donc on essaie de communiquer, même si finalement c'est juste une façade, on va dire une tête de gondole. Mais en tout cas, on peut être trompé par le greenwashing.
Est-ce que vous, voilà, en qualité voilà, d'experte hein, sur cet écosystème, vous savez par exemple s'il y a des marchés, des secteurs qui sont un petit peu plus enclins à verdir un peu leur image ou finalement tout le monde a un petit peu envie de verdir son image parce que ça fait bien?
Alors oui, on peut dire que ça peut être un mouvement assez généralisé. Après, clairement, plus on a en face de nous des mauvais élèves, plus on va avoir un risque de greenwashing.
En plus, ils ont des spin doctors ou des pros de la communication pour nous faire investir dans le nucléaire, mais vert. Il y a des petites choses un peu comme ça qui se jouent au niveau européen. Donc voilà, bah, écoutez, merci beaucoup Pascal pour ces premiers éléments de réponse. On espère, Colin, que ça vous a aiguillé. Et donc bah, voilà, prudence avec le greenwashing. Et alors maintenant qu'on a un petit peu compris ce dont il est question, on va passer à la question de Farid. Alors Farid, hein, il nous écrit parce qu'il voudrait savoir s'il existe de bonnes pratiques pour investir de façon responsable. Est-ce qu'il y a des règles de base à respecter pour essayer d'investir de façon responsable?
Oui, je pense qu'il y en a deux. Alors la première question à laquelle il faut répondre, c'est une question classique, à savoir quel est mon horizon de temps et quel est le risque que je suis prêt à prendre en tant qu'épargnant. Donc c'est une question classique.
Oui, ça mais, c'est pour tout.
Qu'il faut ou également se poser pour les placements durables. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, la deuxième question que l'on doit se poser, c'est est-ce que je veux absolument exclure de mes investissements les mauvais élèves ou bien est-ce que je suis prêt, au contraire, à les détenir en portefeuille pour les encourager dans leur transition? Et ça, cette question,
elle est
fondamentale.
Ça, c'est possible.
Exactement. Et donc, c'est vraiment un choix à faire en tant qu'épargnant. Moi, je comprends les deux attitudes. Les deux choix sont possibles. Donc, l'exclusion ou au contraire, l'accompagnement. Alors, si on veut exclure les mauvais élèves comme les énergies fossiles, par exemple. Là, on peut se tourner vers le label Greenfin, hein, qui est un label qui labellise des produits d'épargne. Il existe aussi le label Finansol, qui est un label pour l'aspect social et solidaire. Donc, ces deux labels, ils sont très sérieux, très exigeants. Et là, avec eux, on n'a aucun risque de greenwashing.
Et est-ce que les entreprises, elles peuvent avoir les deux labels?
Alors, on peut avoir tout à fait, oui.
C'est un gage encore plus de garantie.
Exactement, on peut avoir des fonds qui ont ces deux labels. Alors, et si au contraire, on est prêt à accompagner, donc je parlais des mauvais élèves hein, dans leur transition, le label ISR, donc comme investissement socialement responsable, peut nous aider. Ce label ISR, c'est le grand label français de la transition. Il est d'ailleurs en train de revoir son cahier des charges pour le rendre plus exigeant, normalement, à partir de l'été prochain. Et donc, encore une fois, ce choix-là, eh bien, c'est à l'épargnant de le faire, et les deux, ensuite, les deux choix sont tout à fait possibles.
Parce que c'est parfois un petit peu difficile, effectivement, pour les épargnants de s'y retrouver donc, dans cette jungle des labels. Et puis, il y a aussi ces fameux articles, l'article 8, l'article 9. Et puis, il y a eu certaines sociétés de gestion qui ont déclassé leurs produits parce que finalement, ils ne répondaient pas aux exigences de ces articles.
Oui, c'est pour ça que je pense que les articles, pour l'instant, on peut peut-être les mettre de côté. C'était une intention louable, bien sûr, que d'essayer d'apporter de la transparence et puis de l'exigence dans les produits financiers. Mais effectivement, comme on est en train de se chercher sur ce sujet-là, en tant qu'épargnant, les labels dont on vient de parler me paraissent peut-être plus simples, plus lisibles pour l'instant, en attendant, d'y voir plus clair.
Parce que la problématique des articles, donc on le rappelle, ce sont les sociétés de gestion qui doivent s'auto-évaluer, c'est que justement, elles s'auto-évaluent. Donc comment être jugé parti? Comment se dire, le produit que j'ai conçu, il est merveilleux, il va être article 8, article 9, article 36, c'est quand même pas évident. Et en même temps, si on se place du côté des sociétés de gestion, on se dit, il y a quand même une réglementation. Alors c'est bien parce que c'est plus de transparence pour les investisseurs, donc c'est un éclairage supplémentaire et c'est très bien. C'est un écosystème qui se structure au fil des années, des réglementations, mais en même temps, on dit que ça doit pas être toujours évident pour les sociétés de gestion parce qu'il y a beaucoup de réglementations à l'échelle européenne, à l'échelle française, beaucoup de volonté de transparence. Est-ce qu'elles ont le temps de travailler sur leurs produits financiers derrière?
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Cette problématique de réglementation qui évolue fortement n'est pas facile à gérer. Après, je pense que ça pousse les choses dans le bon sens aussi. Hein. En termes de réglementation, on peut évoquer par exemple aussi le sujet des questionnaires clients. C'est-à-dire aujourd'hui, quand un conseiller financier discute avec un client pour lui proposer des solutions d'investissement, il doit obligatoirement maintenant lui poser des questions au niveau de ses attentes en termes de durabilité. Donc, qu'est-ce que vous attendez,
monsieur l'épargnant? On n'avait pas ça, on avait le profil, l'horizon de placement, le patrimoine, mais on n'avait pas les attentes.
Exactement. Et je trouve que c'est intéressant parce que maintenant, on tend la perche à l'épargnant pour qu'il puisse se saisir de ces sujets et exprimer ses attentes ou pas. Il a le droit de ne pas être intéressé par le sujet, mais au moins...
Que irresponsable, pas durable. ça serait un autre sujet. Mais d'autant que peut-être que vous l'observez, vous, à votre niveau, les plus jeunes investisseurs aujourd'hui, ils sont exigeants, hein.
Oui, tout à fait. Oui, absolument. On ressent une attente plus forte qu'il y a quelques années. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose aussi. Ça pousse, je pense, dans le bon sens.
Eh bien, écoutez, c'est parfait. Donc voilà, pour répondre à la question de Farid, on va passer à Sophia. Alors Sophia, elle nous explique qu'elle a sollicité l'accompagnement d'un gestionnaire d'actifs pour gérer son patrimoine depuis quelques années. Et elle lui a demandé donc d'adosser un caractère responsable à son portefeuille d'investissement. Et puis elle aimerait quand même en avoir un petit peu le cœur net et puis savoir quels sont éventuellement les points d'attention à observer quand on veut investir de façon durable.
Oui, la question de la transparence, elle me semble fondamentale. Et heureusement d'ailleurs que les épargnants poussent en faveur du développement de la transparence. De manière générale, en fait, le grand débat dans l'investissement responsable tourne presque toujours autour de la détention ou pas des énergies fossiles. Et donc la détention des énergies fossiles, elle peut crisper les épargnants qui veulent des placements durables. Et on peut d'ailleurs tout à fait les comprendre. Donc la question qu'on peut poser à son gestionnaire, c'est finalement quel est son point de vue à ce sujet? Est-ce qu'il détient ou pas des pétrolières? Et si oui, à quelle hauteur? Est-ce que c'est est-ce que c'est infime ou est-ce que c'est significatif? Et surtout, quelle est sa politique d'engagement actionnarial? C'est-à-dire, est-ce que sa société de gestion va que fait-elle pour mettre la pression, justement, aux pétroliers notamment, pour qu'ils accélèrent leur transition? Voilà le sujet qui me semble essentiel.
Parce que là, tout à l'heure, dans la première question, vous expliquiez qu'il pouvait y avoir un parti pris de la part des épargnants, des investisseurs, de se dire qu'on va intégrer tel ou tel secteur, telle ou telle société en portefeuille pour justement leur donner une impulsion pour qu'ils ils verdissent pas que leur image, mais dans les faits. Mais comment, c'est quand même un pari sur l'avenir. Comment on fait pour pouvoir jauger, se dire, je vais investir dans tel secteur, et puis ça lui donnera envie
C'est pas un sujet simple. Ce qu'on appelle donc l'engagement actionnarial, c'est le fait de mettre la pression à ces mauvais élèves. Donc ça peut être, en tant que société de gestion, en tant qu'actionnaire, leur écrire, susciter un dialogue. Ça peut être le fait d'organiser des réunions, d'en discuter, de demander plus de transparence, etc. Et de demander des résultats, c'est-à-dire à certaines échéances en termes de calendrier. Donc mettre la pression, quitte à, au bout d'un moment, si les résultats ne sont pas là, aller jusqu'au désinvestissement. Mmh. Donc c'est vraiment une pression de la part des actionnaires qui peuvent se grouper, ou si on a vu des différentes sociétés de gestion se regrouper pour arriver ensemble à une assemblée générale, voter contre une résolution, ou au contraire mettre la pression pour qu'une résolution qui n'y était pas arrive à l'ordre du jour. Donc c'est un sujet qui est pas simple, mais qui est important aussi, encore une fois, pour pousser ces mauvais élèves à plus s'engager.
C'est bien noté. Alors on va passer à une dernière question, celle d'Hugo. Alors Hugo, il est tout jeune, il a 22 ans, il est étudiant et il nous indique qu'il fait un petit peu de trading à ses heures perdues. Il nous dit surtout que la performance et puis le fait de miser en bourse sur des entreprises qui sont vertueuses sont deux notions qui sont aussi essentielles l'une que l'autre pour lui. Et il voudrait savoir comment il peut les combiner. Comment on fait pour donner du sens et être performant?
C'est pas... C'est la toute question, la difficulté.
On attend une réponse magique.
Alors, c'est difficile de donner une réponse magique, mais une bonne idée pour combiner, on va dire, performance et sens, je pense, ça peut être de s'intéresser aux grands thèmes qui peuvent constituer des moteurs de performance sur le long terme. Alors attention, c'est des thèmes qui peuvent être victimes de leur succès et subir des bulles, mais je pense que ça vaut la peine de s'y intéresser. Alors on peut citer quelques exemples. On a les énergies renouvelables, on a le recyclage, on a la santé. Toutes ces thématiques qui sont porteuses sont non seulement susceptibles de délivrer des performances, tout en étant globalement plutôt responsables. Alors, on peut essayer de gérer seul son portefeuille, mais on peut aussi se faire accompagner, soit en utilisant des fonds, donc gérés par des sociétés de gestion. On peut même se faire accompagner par un conseiller financier spécialiste de ces sujets.
Mieux vaut le faire plutôt que, surtout si vous n'avez pas le temps de traiter cela et de suivre régulièrement votre portefeuille d'investissement, mieux vaut vous faire accompagner par un gestionnaire d'actifs, un gestionnaire de patrimoine, évidemment agréé par l'AMF. Mais alors du coup, je rebondis un petit peu sur la question de Hugo, parce que il y a quand même deux secteurs qui sont vachement porteurs en ce moment en bourse, pas que en ce moment, depuis qui affichent une résilience absolue et des performances tout aussi remarquables. C'est quand même la tech et le luxe. En tant qu'investisseur, quand on veut performer, on se dit je vais aller plutôt par là. Est-ce qu'il y a quand même des segments de ces deux secteurs où on peut se dire quand même c'est vertueux? Parce que quand on se dit tech, intelligence artificielle, réseau, etc., on a plutôt envie de se dire, tendance à se dire que ça peut polluer. Est-ce qu'il y a quand même des lueurs d'espoir dans ces deux domaines pour se dire, je vais quand même miser sur ces secteurs et je peux le faire de manière vertueuse, ou alors pas du tout?
Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que le fait déjà de faire du trading, c'est-à-dire le fait d'être actionnaire sur du très court terme, ça, malheureusement, ça ne peut pas être une démarche durable. Lorsqu'on est dans une démarche durable, on est forcément quand même dans une démarche de long terme, d'investissement long terme. Et puis, pour rebondir sur la question des thématiques que vous évoquez, la tech ou le luxe, ces thématiques, c'est vrai qu'elles sont souvent montrées du doigt. comme n'étant pas eh bien, des très bons élèves. Donc, encore une fois, on revient sur le sujet de tout à l'heure, c'est-à-dire on peut en être actionnaire en se disant qu'il y a un effort de transformation, ce qui est vrai, il y a bien sûr un effort de transition et de transformation de tous les secteurs. Après, les épargnants les plus engagés, objectivement, ce ne sera pas vers ces secteurs qu'il faudra
demi-engagés, aller. Alors.
Voilà, exactement, il y a d'autres secteurs.
C'est pas évident de trouver un juste milieu entre... entre voilà, performance et durabilité.
Oui,
et,
tout à fait. Après, moi,
peut-être
le luxe, c'est peut-être moins. Je trouve quand même qu'il y a une différence entre aujourd'hui et il y a quelques années. Il y a quelques années, vraiment, on pouvait se dire que, en particulier, le secteur de la transition n'était absolument pas performant. C'est quand même plus le cas aujourd'hui. On peut quand même avoir des performances dans beaucoup de secteurs durables. Alors, c'est peut-être pas la tech, c'est peut-être pas le luxe, mais il y a quand même beaucoup d'autres
possibilités. Oui, il n'y a pas que la tech et le luxe dans la vie. Merci beaucoup, Pascal.
Merci
d'avoir été avec nous.
Julie.
Pascal Bossan pour Bossan Conseil. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage Agir pour le climat avec son épargne. Donc voilà, si vous voulez plein de conseils pour essayer d'investir de façon plus responsable et éviter effectivement les pièges du greenwashing, eh bien je vous invite à lire cet ouvrage. Et puis de mon côté, eh bien je vous dis à très bientôt et même à demain pour un nouveau live. Et cette fois, il semblerait que l'on parle un petit peu de luxe. Très bon après-midi, à demain.